Vivrons-nous demain ? Une émission de Jean-Pierre Estrampes. Architecture, urbanisme, cadre de vie. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire une thématique qui est assez inhabituelle. Je vais vous parler de cinéma. Alors, non pas qu'on change et que je fasse une concurrence aux émissions de cinéma de Vanessa sur Radio Esprit Occitanie, mais simplement, il s'agit d'un film qui traite de la vie d'un architecte et qui traite d'architecture, un film dont vous avez entendu parler, même si vous ne l'avez pas vu, qui s'appelle The Brutalist, et qui a eu 3 Oscars au 97e cérémonie des Césars aux États-Unis et qui a eu un grand succès international. Ce film a un format assez inhabituel, une longueur avec un entracte, une longueur particulière, et qu'il traite de la vie d'un architecte qui s'appelle dans le film Laszlo Toth, et qui, d'après son réalisateur, d'après le réalisateur du film, Brady Corbett, et la vie de, enfin, inspiré de la vie d'un architecte qui est également un juif polonais qui émigre aux États-Unis et qui a été dans la réalité et dans le film un ancien élève et aussi un enseignant de la célèbre école du Bauhaus, dont je pense vous avez entendu parler, parce que c'est un monument de la création du XXe siècle. Donc, je ne vais pas rajouter des louanges à celles que l'on a lues et entendues dans les radios de ce film, parce que je vais dire tout de suite que j'ai totalement détesté ce film. Alors, la première raison, c'est que quand un film s'inspire de faits réels, alors il y a, on m'a eu dit, mais c'est une fiction. Bon, d'accord. La fiction, on peut faire dans le film, on peut faire l'uchronie, c'est-à-dire on change par exemple, c'est Hitler qui gagne la guerre. On a eu toute une série sur Netflix qui était sur cette thématique, assez bien faite d'ailleurs. Et ou alors on peut avoir aussi une fiction à partir de faits réels, mais style film catastrophe, là aussi c'est un genre bien connu, la dystopie. Alors là, effectivement, on donne l'impression que tout est vrai. Et le film a été, comme je vous disais, accueilli par la critique d'une manière très chaleureuse. Et apparemment, tout ce que j'ai entendu dire, c'était à part quelques réserves de cet acabit. Et aussi, les Césars et Hollywood ont acclamé l'acteur qui a eu le prix de l'interprétation masculine, qui est un acteur très connu, que l'on connaît, Adrien Brody, avec un physique particulier, de grand échalas, avec un visage taillé au couteau. Alors oui, visage taillé au couteau, grand échalas. Alors il se trouve que Marcel Breuer, qui est celui qui a inspiré ce rôle, comme je vous disais, était effectivement semblable à un juif polonais, mais c'était un petit monsieur, plutôt rond et très, très, on peut dire, peu expansif et qui n'était absolument tout à fait le contraire de la, du rôle complètement extravagant, échevelé de cet architecte. Alors on parlera dans la deuxième partie de l'émission de l'architecte d'une manière beaucoup plus générale dans le rapport avec son client et aussi sur les chantiers. Mais ce que je voulais, c'était justement montrer la disparité incroyable qu'il y a entre celui qui a inspiré le modèle du film, et alors, il ne s'agit pas uniquement que l'aspect physique. Alors il se trouve que par les grands hasards de l'histoire, j'étais étudiant aux États-Unis et j'ai rencontré et discuté un peu, bon je ne peux pas dire que j'ai eu de très grandes conversations, avec le Marcel Breuer, dont on était un groupe d'étudiants et il était venu à c'était dans le nord de Détroit, une ville qui s'appelle Muskegon, où il avait fait effectivement aussi un grand bâtiment en béton qui était dans ce cas-là une église. Et c'était en fin de chantier, donc il était venu discuter avec notre petit groupe, on était 5 ou 6 d'étudiants qui étaient venus le rencontrer. Et effectivement, il y a une chose qui est semblable au film, c'est qu'il avait un accent allemand. Alors il était, et on va parler du temps, il était depuis 30 ans aux États-Unis, et il avait un accent à couper au couteau, que même pendant la petite allocution qu'il a faite, on a été obligé. Il avait son associé ou son chef d'agence, je ne sais, me souviens pas très bien, qui traduisait pour que l'on comprenne, tellement son accent allemand rendrait l'anglais incompréhensible. Bon, ça, c'est le côté un peu amusant et que l'on retrouve parce que justement, on lui reproche son accent anglais. Mais alors là où l'histoire est tout à fait faussée, c'est que Marcel Breuer, donc, est un architecte qui avait été élève du Bauhaus, quelqu'un qui a après été professeur et qui avait créé, étudiant, les fameuses chaises tubulaires qui sont toujours éditées et qui sont, on peut dire, à l'origine de tout ce qui a été comme meuble tubulaire. Et la qualité du Bauhaus était à la fois d'être un artisanat, mais à la fois un artisanat qui permettait, c'est-à-dire résurgence des métiers anciens que l'on intégrait dans un ensemble dans lequel il n'y avait pas de hiérarchie, et donc la création de meubles qui étaient considérés de l'artisanat prend justement ce qu'on appelle le design, donc, et le Bauhaus est on peut dire à l'origine de cette conception qui est le design. Alors pour revenir à ces chaises tubulaires que tout le monde connaît, elles sont continues d'être éditées. Et donc il y a toujours des royalties qui vont certainement à sa famille, et que Marcel Breuer a touché très tôt les royalties de ces fameuses chaises tubulaires qui ont été fabriquées. Alors on est dans une période qui est la fin du Bauhaus, 1934, et Marcel Breuer émigre à Londres, à la fin. Alors il y a une histoire compliquée dont on pourra reparler, du Bauhaus qui est fermé par les nazis. L'histoire est assez complexe, mais on va sortir de cette émission si on commence à parler de cela. Alors, bon, ce que l'on peut dire, c'est que les architectes qui sont, on peut dire, renommés sur un plan international, Marcel Breuer va tout de suite partir à Londres où il va avoir du travail, il touche ses royalties, et les architectes du Bauhaus ont des propositions des universités américaines. Comme vous le savez, les universités américaines ont cette grande force de frappe qui est liée à leur puissance financière, et qu'on attire les savants comme Einstein a été appelé à Princeton, et on a évidemment les architectes aussi, et ces architectes qui ont déjà une renommée internationale très importante, et notamment Walter Gropius, qui a été, on peut dire, le fondateur du Bauhaus, qui est appelé. Alors, il n'est pas appelé à un petit poste d'enseignant dans une obscure université. Il est appelé à prendre la direction de l'école d'architecture qui s'appelle Graduate School of Design, GSD, à Harvard. Harvard, qui est considéré comme la première université mondiale. Donc, ce n'est pas rien. Donc, Breuer va rejoindre en 1937 Walter Gropius. Walter Gropius est le dean, le doyen, qui à la fois, on peut dire, fait les programmes et dirige, choisit les professeurs, et il fait venir avec lui Marcel Breuer. Donc on peut penser, alors il s'agit évidemment dans le film d'un architecte qui a été d'abord dans les camps de concentration et qui arrive après la guerre aux États-Unis. Donc vous voyez la différence. Et puis dans le film, il est misérable, il a une vie, on le voit creuser du charbon, je sais pas quoi, enfin, et puis c'était en permanence, c'est ce pays ne nous aime pas, etc. Et là, au contraire, alors le cas de Harvard n'est pas isolé. On a la même chose avec le dernier directeur qui est l'architecte dont on a parlé dans différentes émissions, qui est Ludwig Mies van der Rohe, et qui est appelé à avoir la tête d'une école, évidemment, qui est moins prestigieuse, mais on lui dit en contrepartie, vous allez être directeur, vous allez pouvoir construire l'école sur un nouveau terrain, et vous serez donc l'architecte de l'école, vous établirez les programmes et vous en serez le directeur, ce qu'il a été quasiment jusqu'à la fin de sa vie. Là aussi, et il y a aussi Mole Nagy qui a créé le nouveau Bauhaus à Chicago. On peut dire en fait que l'Amérique a ouvert les bras. Alors après, on peut dire les Américains savouent leur intérêt, ils savent attirer pour le capitalisme, etc. Peu importe. Mais en fait, il y a une vérité historique, c'est que ces Allemands ont été extrêmement choyés. Et en parallèle, ils ont eu des commandes, et ce que l'on voit, cette histoire douloureuse, invraisemblable, de la construction de ce centre en béton, on peut dire que Breuer a construit d'abord quelques maisons, et puis il a eu une agence par lui-même, qui d'ailleurs, je pense, continue sous son nom à New York, et il a eu de très gros projets. Alors, pour citer les projets, donc il a construit, donc je vous disais, des centres religieux. Donc même s'il était juif, il a construit des églises. Il a construit des musées. Il a construit aussi en France. Il a construit avec Xerfus le bâtiment de l'UNESCO que l'on connaît en forme de qui est à Paris. Il a également construit à Lagode le centre IBM. Il a construit la station de la Flaine. En fait, c'est à Bayonne, il a fait également une ZAC. Donc, il a eu une vie très, on peut dire, d'un grand architecte avec énormément de succès. La même chose a été pour Gropius et, comme je vous disais, Mies van der Rohe également a construit aux États-Unis, il a construit au Canada, il a construit à Chicago des très grands projets. Et donc, cet aspect misérabiliste que l'on a dans ce film et qui apparemment, pour des raisons de politique actuelle dans laquelle je ne rentrerai pas, mais l'Amérique où Trump est contre les migrants, alors tout le monde on fait des projections sur des phénomènes actuels, mais et on travestit complètement l'histoire. Et je trouve cela extrêmement choquant parce que ce n'est pas du tout la manière dont ça s'est passé. Alors, si, par exemple, j'oubliais une chose, c'est que, par exemple, en 1949, avant qu'il ait construit, qu'il ait eu son agence importante à New York, Marcel Breuer, puisqu'en fait, c'est lui le faux héros de l'histoire, a fait, dans le jardin du musée d'art moderne de New York, c'est pas rien, le musée d'art moderne, le fameux MoMA, il a construit un prototype d'une maison qui s'appelait une maison binucléaire et qui a été d'ailleurs, on peut dire, en grande inspiration de l'architecture américaine moderne, avec un architecte aussi qui était un Autrichien, bon, pas issu du Bauhaus, qui s'appelait Richard Neutra. En fait, l'Amérique a accueilli beaucoup de ces architectes étrangers. Et on pourrait aussi s'interroger pour les Français, également aussi, il y a eu des Français, et des Français qui ont eu une influence importante dans les écoles d'architecture. Il y a eu Paul Cret à Philadelphie, et puis aussi il y a eu Labattu, qui était un architecte comminjois, et issu d'une petite commune que l'on connaît, de Marthe-Tolosane, j'en ai déjà parlé, et qui a eu un poste très influent à la prestigieuse université qui est celle de Princeton. Voilà donc pour cette première partie par rapport à l'histoire vraie et l'histoire fausse, mais à un point totalement invraisemblable, puisque on a changé les dates et on a changé totalement la vie. Alors, on va marquer une pause musicale, et puis on parlera de l'architecture, de la vie de l'architecte et de la manière dont on construit par rapport à la manière dont c'est montré dans le film.
Intent to feel I'm
Alors, ce film s'appelle Le Brutaliste. Alors, si vous avez bien vu ce film, on pourrait l'appeler plutôt le brutalisé que le brutaliseur. Et la question, c'est pourquoi ce titre ? Alors, il y a une raison, c'est qui est liée au vocabulaire de l'architecture, et le mot béton brut. Alors, le mot béton brut a été employé pour la première fois par Le Corbusier. Alors, je vais vous citer le contexte. On est donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et donc les premiers bâtiments qui doivent être faits pour la reconstruction. On n'a pas une main d'œuvre très expérimentée et on a peu de moyens. Donc, vous savez que le béton est de la, c'est une sorte de pierre coulée que l'on fait entre ce qu'on appelle des banches. Et les banches, elles peuvent être évidemment, si elles sont en métal, on aura un béton lisse. Et quand on n'a pas la possibilité d'avoir ces grandes plaques très solides, on met des planches et on fait donc. Quand on décoffre, c'est-à-dire quand on enlève les planches et que le béton est sec, on a une sorte de moulage des planches. Et comme ces planches ont été un peu mal disposées, on a un effet irrégulier. Et Le Corbusier crée une esthétique par rapport à ça, qu'il appelle le béton brut. Et on a effectivement cette forme irrégulière qui fait que quand le béton n'est pas parfaitement coulé, vibré, etc., on n'a pas une surface comme de la pierre. Et donc, le fait d'avoir ces irrégularités, on appelle le béton brut. Alors après, ce mouvement on peut dire, a prospéré, parce que le béton est un matériau qui a des grandes possibilités structurelles et qui est aussi bon marché. Et notamment, en Angleterre, il y a eu un mouvement, on l'appelait ça le brutalisme. Or déjà, le béton qui était fait en Angleterre, c'était pas le même béton que Le Corbusier, même si Le Corbusier pouvait apparaître comme une figure, on peut dire, inspirante, mythique pour les architectes. Alors, en ce qui concerne les États-Unis, c'est pas un pays de béton, c'est un pays où on construit en bois et on construit en métal, parce que c'est l'industrie. Alors, ce sont les traditions, c'est aussi ce que l'on trouve et que l'on peut extraire, et ce que l'on trouve notamment le bois, mais donc. On est dans une tradition qui n'est pas celle du béton, mais quand il est employé, le béton est employé. Alors, il peut être employé évidemment, il est employé quand on fait des parkings, quand on fait des fondations, mais je parlais du béton qui est vu comme un matériau de façade. Alors, il sera employé par Breuer au Whitney Museum de New York, mais ce béton-là donne l'impression d'être de la pierre. Donc il est fait, comme je vous disais précédemment, avec des banches métalliques. Donc les banches sont huilées et le béton est vibré pour avoir une régularité sans qu'il y ait de bulles d'air et d'agrégats extérieurs. Et on a une surface qui a l'apparence de la pierre. Donc, le mot brutaliste ne convient pas très bien à cette expression. Comme je vous disais, il est rapporté d'Europe, mais même s'il est considéré comme un matériau qui est pas du tout majoritaire aux États-Unis, on a des bâtiments qui vont être construits, mais que l'on ne peut pas qualifier de brutalisme parce que ils ont un emploi de par exemple de béton et de marbre. Et dans le film, on voit, et c'est une scène totalement ridicule, l'architecte qui part des États-Unis en Italie pour choisir du marbre de Carrare en avion. C'est complètement impensable. On le voit dans la carrière où il est embrassé par le carrier, mais le rapport de l'architecte avec un carrier, il faudrait avoir construit des milliers de mètres carrés pour, puis même, ça m'est arrivé d'aller deux fois dans des carrières, mais enfin, bon, c'est c'est invraisemblable le fait que cet architecte qui avait été justement en camp de concentration, qui avait forcément peu construit, il se trouve en Italie comme ayant fait vivre les carrières de Carrare. Bon, alors on n'est pas à une invraisemblance se près. Alors, comme je vous disais aussi, dans la manière dont l'architecte travaille, là, on a des scènes sur le chantier où on a l'architecte qui hurle, qui se démène, on lui pose la question comment faire. Il dit je vous dirai demain la solution, mais non, on ne fait pas. Alors on peut faire ça sur une opération un peu bricolée d'une rénovation, aux États-Unis, surtout pas. Les États-Unis, rappelons-le, c'est un pays juridique dans lequel les rapports sont extrêmement codifiés, précis, et les architectes américains sont extrêmement précis dans les plans que l'on donne aux entreprises, et bon, ce qui n'est pas toujours le cas en France, mais on est aux États-Unis. Et donc les architectes allemands, justement, se trouvent tout à fait en phase, parce que bon, il y a cette rigueur allemande également avoir précis et d'une manière industrielle avant le chantier, et donc il n'y a pas d'improvisation sur le chantier. L'improvisation sur le chantier, ça peut être sur un petit chantier, mais sur un grand chantier, c'est quelque chose de totalement impensable. Donc toutes ces scènes-là de crise sont complètement invraisemblables. D'ailleurs aussi, il y a une chose qui est en tout début, où on voit une maquette gigantesque qui est présentée aux clients pour choisir. Mais ça n'arrive pas. Alors aux États-Unis, effectivement, il y a eu les grandes entreprises d'architecture américaine, qui ont des fois plusieurs centaines d'employés, font des grandes maquettes, ou faisaient des grandes maquettes. Je pense qu'actuellement, avec le numérique, ça s'est calmé. Mais c'était, une fois que le projet était fini, élaboré, on faisait des tests de lumière ou d'acoustique, que sais-je encore, mais en tout cas, ou des modes de présentation pour des expositions. Mais en tout cas, là, on ne fait pas une maquette de plusieurs mètres de hauteur pour présenter à des clients. On a une progression au niveau du projet jusqu'au projet final. Donc tout ça est assez invraisemblable, et je pense qu'en fait, c'est le cinéaste qui pense que on construit comme on fait un film. Alors c'est vrai qu'il y a des cinéastes, on connaît des cinéastes qui sont extrêmement précis, Louis Malle par exemple, tout était précis à l'avance, tout est dessiné ou sur des cahiers, et puis il y en a qui improvisent, qui changent, qui engueulent les acteurs, qui ont des rapports difficiles, et je pense que le cinéaste reproduit ces cinéastes-là qui on peut dire qui brutalisent, justement, pour reprendre le mot, les acteurs avec le film. C'est pour ça qu'Hollywood s'y retrouve, parce que ils ont l'impression que le bâtiment architectural c'est comme un film. Mais même si les films durent longtemps, un chantier c'est une autre responsabilité, une autre affaire, des risques et des choses extrêmement précises et qui n'a rien à voir avec le cinéma. Donc, on peut dire que la scène de la maquette, le chantier, la scène de la carrière, et puis à la fin, la dernière scène où on voit le pauvre architecte en fauteuil roulant à la Biennale de Venise, où on a une espèce de trucs fantasy où on dit que il a refait ce qu'il avait en camp de concentration dans son bâtiment. Alors là, quand même, je voudrais dire que les architectes ne construisent pas des bâtiments de camp de concentration, et on construit pour son client. Un écrivain pour raconter sa vie, s'exprimer, peut-être un sculpteur, un peintre aussi. Mais l'architecte construit pour son client et ne construit pas ses fantasmes, les douleurs de sa vie. Ça peut être dans un roman, mais ce n'est jamais dans l'architecture. Et surtout dans une architecture qui est exemplaire, qui est faite par un puisque c'était le modèle par un grand architecte. Les architectes sont respectueux de leurs clients, ils sont respectueux des utilisateurs. Alors, peut-être, et c'est peut-être mon hypothèse finale, qu'il y a, circule dans le fantasme de l'Amérique d'aujourd'hui, les rapports du promoteur Trump qui avec les architectes, je n'en ai aucune idée de la manière dont ça s'est passé, mais que peut-être circulent des histoires de violence, de conflits, mais Trump n'a pas réalisé des bâtiments magistraux. Et à ce que je sache, et donc je ne sais rien de ses rapports avec les architectes, mais ça peut être aussi mon hypothèse pour le brutaliste. En fait, le brutaliste, ce ne serait pas celui qui brutalise, mais ce serait celui qui est brutalisé. C'était Où vivrons-nous demain ? Je remercie l'indispensable Grégor qui est à la technique. Et je vous souhaite une bonne semaine.